Court-circuit.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise.
De conscience écologique. Bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans l'émission Court-circuit, qui est propulsée par le collectif Court-circuit, un collectif qui regroupe des associations, des gens et qui ont envie de faire des trucs en lien avec l'écologie. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Mathilde.
Salut.
Guillaume.
Salut.
Alex.
Bonjour.
Et Guillaume.
Bonjour.
Le thème du jour en lien avec l'environnement, c'est « Faut-il être radical pour être entendu ?» Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un extrait. C'est un extrait des Femen lors d'une manifestation. Je me tourne vers mes invités du jour. En fait, c'est quoi qu'on appelle la radicalité quand on parle de radicaux dans l'écologie ?
Ben, on peut se poser la question, quelle est la différence entre la radicalité et l'extrémisme ? Prenons par exemple la transition écologique de la ville de Paris. Cette capitale est approvisionnée par des systèmes très dépendants des énergies fossiles, dont la combustion est responsable du changement climatique. Il n'y a pas d'autre solution que de revoir ce modèle. Cette analyse est radicale. On prend le problème dans sa totalité et on réfléchit à la réorganisation de nos imaginaires, de nos cultures, de nos échanges, de nos partages. Mais cette transition ne peut pas se mettre du jour au lendemain. On ne va pas couper brutalement la chaîne d'approvisionnement, aussi polluante soit-elle. On mourrait de faim en quelques jours. Ce serait très extrême. Mais on peut répondre à ce défi radical de manière non extrême en construisant sereinement et démocratiquement une alternative.
C'est intéressant cette question de démocratie, de radicalité. Tu disais que tu avais une citation qui te plaît.
Oui, de Sandrine Rudeau, qui est une éditrice, romancière et féministe. Elle dit « Être radical, c'est être radicalement pour la vie, pour la dignité, la liberté, le respect, l'humanité. Ce sont autant de valeurs qui ne souffrent pas la négociation. » Voilà, moi, ça mérite d'être clair, la radicalité selon elle. Et puis, justement, pour définir cette radicalité, j'aimerais vous présenter un concept, la fenêtre d'Overton. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une allégorie qui situe l'ensemble des idées ou des pratiques comme plus ou moins acceptables dans l'opinion publique. L'échelle, elle va du terme impensable à politique publique, donc quelque chose qui n'est pas pensable, à quelque chose qui est adopté par tout le monde. Et sur cette échelle, le terme radical se situe entre le terme impensable et le terme acceptable. On voit bien qu'il fait la jonction entre les deux. Donc le but, aller dans la radicalité, permet d'élargir cette fenêtre d'Overton et de rendre acceptables des idées condamnées normalement par la société. Je vais prendre un petit exemple, parce que là, on est sur le théorique. En gros, si on souhaite qu'il y ait un repas végétarien hebdomadaire dans les cantines, il vaut mieux militer pour que la totalité des repas soient végétariens, pour que finalement on adopte un pseudo-consensus à un repas ou deux repas.
Oui, du coup, ça prend un peu aux techniques de négociation, et notamment de négociation commerciale, où on demande beaucoup plus pour ensuite avoir moins, mais c'est prévu dès le départ, et comme ça, tout le monde se considère gagnant-gagnant ou perdant-perdant, mais personne ne perd la face.
Et c'est valable aussi dans le domaine des idées. On voit que l'extrême droite utilise beaucoup ce concept de fenêtre d'Overton, à dire des grosses atrocités dans les médias pour que finalement des idées qui paraissaient inconcevables avant deviennent concevables.
Ok, très bien.
Alors moi, sur cette question de la radicalité, il y a plusieurs idées qui me sont venues. Alors je vous les livre un peu en vrac. À titre personnel, j'ai vraiment rien contre les actions non violentes, mais je n'ai rien non plus contre la radicalité. Je pense qu'on est tous sensibles à des choses différentes. Et puis quand on a un sujet légitime à défendre, il faut pouvoir parler à tout le monde.
Du coup, je te coupe. Ça veut dire que tu considères que la radicalité va avec des actions violentes ?
Moi, j'ai fait plusieurs manifs dans ma vie, pas mal à une époque, et certaines, elles dégénéraient en affrontement avec les forces de l'ordre, mais c'était souvent des manifs contre la corrida, parce que la pression montait, la frustration, mais en fait, ça ne change rien à la cause, du moment que la cause, elle reste bonne. Oui, il peut y avoir une forme de violence, mais il ne faut pas remettre en cause ce pourquoi on se bat.
Ok, d'accord. Pour toi, c'est une vision globale. Tant que c'est des personnes qui militent pour ça et qu'on met en place ces actions, pour toi, il y a une vision qui est cohérente, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et je pense que c'est important de de penser les mots qu'on utilise. Et quand on parle de grogne, quand on parle de manifestants, c'est extrêmement péjoratif, en fait. Ça réduit les gens qui descendent dans la rue pour défendre des droits à juste des gens qui sont pas contents. Alors que, enfin, pour moi, la violence, elle se situe parfois aussi dans le camp de l'État, tout simplement, quand il fait passer certaines lois. Enfin, voilà, c'est une violence qui est autre, elle est invisible, elle est systémique, elle est sociale, économique, mais c'est aussi une forme de violence.
Et puis, ça peut laisser penser que quand on va en manifestation, on est forcément contre un nouveau projet, contre une réforme,
ouais,
mais
vrai.
On peut, alors que la vision, elle peut être beaucoup plus globale et avoir une vision pour une autre société, pour une alternative.
Absolument. Et pour en revenir à notre sujet, force est de constater que les experts du GIEC qui publient des rapports tous plus alarmants les uns que les autres depuis 30 ans et que les choses elles ne changent pas aussi vite. Donc parfois, la pédagogie, elle ne suffit pas, quoi. C'est un constat.
Et je vous propose qu'on passe à la chronique de Guillaume qui va vraiment faire le lien entre ce qu'on dit l'autre Guillaume et Mathilde sur individuellement comment on se projette face à cette radicalité.
C'est ça. Je vais prendre pendant une petite seconde ma casquette de communicant scientifique. Moi, j'ai entendu pendant mes études et même tout le temps, c'est quoi ton public ? À qui tu t'adresses ? Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on a. Et l'association Plastob a fait une recherche avec l'ADEME et des chercheurs pour savoir les types de visuels. Est-ce que les types de visuels devraient être radicaux ou non pour donner envie finalement aux gens de bouger et de faire des actions ? Et dans leurs études, du coup, ils ont défini trois catégories de personnes. Donc les indifférents, les consomme-acteurs et les ambassadeurs. Donc on aura des types de visuels différents suivant les trois. Vous voyez où je veux aller. Les indifférents sont des personnes qui réalisent quelques éco-gestes au quotidien. Donc ils sont susceptibles aux émotions positives, comme l'intérêt, la joie ou la surprise. Et aux émotions négatives modérées. Donc, ils peuvent être en colère, la peur et la tristesse, mais il ne faut absolument pas faire des visuels trop stressants émotionnellement, car ils ont tout simplement tendance à fuir, donc à ne pas s'investir.
C'est de la réactance, finalement.
Oui, voilà. Le consomme-acteur, donc lui, il réalise des éco-gestes à visée économique, principalement. Donc là, c'est sur l'achat de jeans, par exemple. Donc, ils sont plus récepteurs aux émotions négatives, comme la colère, le dégoût, la tristesse ou le mépris. Donc là, on peut imaginer des visuels plus forts qui vont carrément dans un monde apocalyptique, voire très pollué. Et enfin, on a les ambassadeurs, qui sont des personnes qui ont un engagement individuel, mais aussi un rôle de prescription, finalement. Ce sont les moins confiants vis-à-vis de l'avenir de la planète. Donc eux, ils sont touchés par un type d'émotion, car c'est un sujet de prédilection, ils sont vraiment impliqués, et leur degré d'implication est donc important. Donc ils éprouvent aussi la culpabilité et la honte, des émotions qui sont non concevables avec les autres catégories de personnes. Donc ici, les visuels pourront être plus forts et plus radicaux, parce qu'ils sont déjà finalement dans l'esprit des personnes. Pour vous donner une petite idée, cette étude a dit que 22% des personnes en France sont indifférents, 43% sont consomme-acteurs et 35% sont ambassadeurs. Voilà, donc à vous de faire le choix de comment vous parlez suivant le public.
Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant. Comment toi, à travers ces trois profils, quand tu mets en place une campagne de communication, est-ce que tu te dis, je vais plutôt m'adresser à tel public, ou est-ce que tu essayes de faire un message général ? Comment tu t'appropries ça dans ton travail du quotidien ?
Moi, dans mon travail, j'essaie toujours d'identifier lequel public j'ai en face de moi. Parce que généralement, on touche le public qui vous connaît déjà, finalement. Et ensuite, c'est sur la plus grande part. Okay. C'est bête à dire, mais si j'ai 60% de mon public et consommateur, je vais viser des visuels qui ne sont pas trop apocalyptiques.
Mmh.
Voilà.
Très bien. Et du coup, ça fait le lien avec ce que tu voulais dire sur...
Sur la sécurité routière, oui, je repensais à ça quand on parlait de radicalité, parce que moi, j'ai vraiment souvenir de pubs pour la sécurité routière extrêmement trash, et moi, ça m'a personnellement très frappée. Et je me demande toujours, en fait, si ça marche sur les autres, parce que ça peut être assez cash, et du coup, au contraire, on peut détourner les yeux, et ça peut être complètement contre-productif. Donc, c'est intéressant, voilà.
Suivant les pays, les pubs de sécurité routière sont différentes. C'est drôle à regarder. Si vous voulez regarder l'évolution des pubs sécurité routière en année et par pays,
ouais.
On s'amuse un peu.
Pour continuer sur nos échanges sur la radicalité, Alex, tu voulais parler justement de la question de comment on peut comprendre l'appréhension de tout ça.
Ouais, c'est un peu ça. j'irais comprendre qu'il y a des intérêts qui s'affrontent avec des moyens complètement inégaux en termes de ressources financières, d'influence, de lobby, de corruption, d'accès à la justice, et que les moyens en face pour contrer ne sont souvent pas à la hauteur. Alors on comprend qu'être visible dans les médias est un pouvoir.
Mais en fait, on peut se demander si la radicalité et l'action classique vont pas de pair finalement.
Ou même, on peut même se demander de quel côté se trouve la radicalité. Parce que dans son livre, justement, Andreas Malm, son livre s'appelle « Comment saboter un pipeline ?», il se pose la question à ce sujet et il dit que la violence commise par une raffinerie et la combustion d'énergie fossile a des conséquences n'importe où dans le monde. Et que finalement, si on détruit une raffinerie, une mine de charbon, on diminue le niveau de violence dans le monde. Donc on peut se demander qu'est-ce qui est le plus radical, est-ce que c'est celui ou celle qui lutte contre les pipelines activement, voire éventuellement à les saboter, ou une entreprise comme Total qui en construit un actuellement en Ouganda qui traverse l'Afrique.
Et puis il y a le site Bonpote justement qui l'a évoqué.
Bonpote, il analysait un petit peu plus les fameux gestes des activistes, alors jeter de la soupe sur les vitres, sur les œuvres. Ou les activistes qui bloquent les matchs de tennis, etc. Et il en arrive à la conclusion que si on est plus énervé par un activiste qui jette la peinture sur une vitre ou qui s'allonge sur une route que par les multinationales d'énergie fossile qui condamnent notre avenir, c'est probablement qu'on n'a pas compris le problème.
Bon alors Mathilde, pour ou contre la radicalité?
Bah pour et contre, pour ne pas répondre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et justement ça pose la question des médias qu'on a tout simplement dans notre pays, parce que d'un point de vue médiatique, tu te dis qu'une personne qui est posée, qui argumente avec nuance sur un sujet, bah ça va moins intéresser les médias qu'une personne qui va faire le buzz justement en posant un acte fort tel que ce dont tu viens de parler, Guillaume. Quelle que soit sa légitimité d'ailleurs à en parler. D'un autre côté, il y a d'un point de vue efficacité, il y a le chercheur Manuel Cervera Marsal, dans son livre « Désobéissance civile », qui donne deux atouts à la non-violence. Elle permet souvent de faire plus nombre, puisque tu peux rallier des profils plus larges, et puis elle crée plus de division chez l'adversaire, puisque contrairement à un mouvement violent qui va polariser, on va pouvoir se dire « bah regardez, ils sont violents », résultat, on oublie la cause défendue derrière, ce dont on parlait tout à l'heure. Mais je crois que parfois, en fait, c'est le rapport de force qui ne nous donne pas le choix. Et pour finir sur une citation, c'est Kennedy qui a dit « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. »
Et du coup, moi j'aimerais finir cette discussion par une question un peu plus personnelle. On a vu dernièrement des jeunes qui balançaient des liquides sur des tableaux de peintres. Est-ce que vous considérez, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là, que c'est de la radicalité?
Non.
Non plus.
Moi, je considère que c'est radical, mais je suis pas blessé. On va dire, il y a le radical où je trouve que c'est radical, mais qui continue. Et où le radical où je suis complètement contre. Et là, c'est une radicalité que j'accepte.
Moi, je trouve qu'ils ont réussi parce que justement, ils ont réussi à prendre un peu le pouvoir dans le média et à se rendre visible. S'ils n'avaient pas fait ça, s'ils avaient écrit un bouquin, ils seraient passés à la trappe.
Exactement.
Et puis, ce type de radicalité permet également d'intervenir et d'être médiatisé en peu de nombre. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que quand vous faites des manifs et que vous êtes 10, personne ne va le relayer. Si vous êtes 10 jeunes qui vont sur des tableaux, qui s'attaquent à des tableaux, ça va être relayé dans le monde entier. Donc, ça va vous permettre de décupler la communication autour de ces actions et de vos messages. Simplement, on va passer à un petit jeu. Alors, compléter ces slogans en lien avec la radicalité. J'ai demandé à mes intervenants et intervenantes de préparer la fin de slogan dont j'ai préparé le début. Est-ce que vous avez trouvé un slogan pour notre avenir?
Il faut ralentir.
Pour notre avenir?
Pour notre avenir, ne pas laisser les autres penser à votre place.
Ouais. Le deuxième, c'est on n'est pas radicaux, on est...
Des chroniqueurs radio.
C'est bon ça.
Ok, le troisième c'était les bisounours, on les...
On n'ose pas dire.
Ah oui, tous pensé la même chose.
D'accord, ok, très bien. Sacre bleu, la jeunesse.
C'est vraiment un truc de boomer, sacre bleu.
L'avant-dernier c'était et 1, et 2, et 3. Non, celui-là il ne vous a pas inspiré.
Non, rien du tout. On n'est pas fouteux.
Et le dernier c'était en slogan, la révolution c'est comme...
Alors ça, c'est Che Guevara qui l'a dit, c'est comme la bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe.
Je crois que tu en oublies un essentiel qui est le changement, c'est maintenant.
C'est pas mal pour terminer sur ces slogans. Mais je crois que ça a déjà été pris. Peut-être une rapide suggestion.
Ouais, alors une enquête sur Envoyé spécial, une enquête sur les radicaux écolos. Donc je vous la conseille, ça dure une demi-heure, c'est sur France.tv.
Merci à toutes et à tous et à très bientôt.
Merci.
Ciao.
Salut.
Merci,
au revoir.
Court-circuit.
Les doigts dans la prise. De conscience écologique.